Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Roland Courbis, on file tout de suite à Bonal la séance de tir au but entre Sochaux et Nantes. Premier tireur nantais, David Fully, Sébastien Ruffet.
Oui, c'est Pereira de ça qui l'avait au fond. C'est parti pour cette séance de pénalty avec les Nantais qui ont donc ouvert le bal à 1-0 pour Nantes dans cette séance de tir au but. On tire devant le COP, devant la tribune nord du stade Bonal et pour les Sochaliens. Alors c'est difficile de voir parfois de loin avec les numéros et c'est Sami Farage, l'un de ces jeunes joueurs dont on parlait tout à l'heure, qui a pris le ballon. On leur demande de prendre leurs responsabilités également.
C'est jeune
garçon, avec face à lui Rémi Descamps, le gardien remplaçant habituel. C'est parti, la petite Panenka. Ouh, la prise de responsabilité. Alors, elle n'est pas montée très haut, mais en tout cas, il a pris à contre-pied de manière très classe. Là, Sami Farage sur ce coup-là, ça fait un partout. Il a quand même fait passer un petit frisson là avec son geste, ouais. Mais il est parfaitement
Roland,
maîtrisé.
Ton avis sur cette façon de tirer le penalty? Heureusement que le gardien plonge de l'autre côté, quoi, non?
Tu sais, quand j'étais entraîneur, je leur disais, pas de problème, fais ce que tu veux, mais ne le rate pas.
Et là, si jamais en la tirant comme ça, il la rate, qu'est-ce qui se passe pour lui?
Il
peut y tourner.
Un tête à tête dans le bureau.
Aïe.
Allez, Moutoussamy, deuxième tireur nantais pour le milieu de terrain, le numéro 6 du FC Nantes, face à Mehdi Jeannin, lui aussi habituel remplaçant. Ouf, en pleine lucarne, c'est bien tiré. Oh, c'est bien tiré là pour Moutoussamy. Il a vraiment cherché haut dans la lucarne. C'est parfaitement tiré. Ça fait 2-1 pour les Nantais.
Vous êtes sur RMC. C'est l'Intégral Foot Coupe de France. Ce week-end de 32e de finale. Je vous rappelle qu'en début d'après-midi, un premier club de Ligue 1 s'est fait sortir à ce stade de leur compétition. 3 est éliminé au tir au but. Tiens, par un club de Nancy de Ligue 2. Tiens. Et en ce moment, c'est donc un deuxième club de Ligue 1 en danger. Nantes, après ce match nul 0-0 à Sochaux. On vit en direct sur RMC avec Roland Courbis et avec Sébastien.
Copain Malcolm qui va tirer. Voilà. Malcolm Viltard. Je vous le disais tout à l'heure, un des jeunes espoirs de ce FC Sochaux, et c'est dedans. Il était parti du bon côté des scores là, sur ce coup là c'est dans le petit filet, c'est très bien tiré. Finalement, on a eu peur que ça manque un peu de puissance, mais finalement ça passe. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre la main du gardien nantais et le poteau, mais ça s'est faufilé et ça fait deux partout.
Un joueur épanoui est un homme heureux, comme dirait l'os. Bravo Malcolm. 17h59,
c'est Sébastien Corchia qui a pris le ballon pour les Nantais.
Sébastien Corchia pour Nantes, les Nantais, et tenter donc de poursuivre ce sans faute dans cette séance de tir au but. Sébastien,
allez, ça va enchaîner avec un ancien de la maison, hein. Il a joué 98 matchs avec Sochaux. C'est ici à Bonal qu'il s'est vraiment révélé,
c'est pour ça à
la France du football. Le COP en tout cas lui fait bien sentir que ce serait bien qu'il marque pas face à son ancien club. C'est bien tiré, plein axe. Enfin, je sais pas si c'est bien tiré, mais enfin, en tout cas, c'est au fond. On avait l'impression que Mehdi Jeannin allait sur ce coup-là peut-être pouvoir intervenir, mais ça fait 3-2 pour les Nantais.
Oh là, où il est passé où?
Alors, dans quelques instants, ça va être à nouveau au Sochalien de tirer contre Descamps, le gardien nantais, bon gardien, qui a arrêté quelques pénalties lorsqu'il jouait à Tours. Me glissait Benoît Boutron il y a quelques instants. Et Benoît qui prendra la suite dans un instant pour d'autres matchs de cette 32e.
Il a plongé encore plus loin que le pénalty raté.
Qu'est-ce qui se passe, coach?
Ce pénalty, il est raté, le gardien, il a plongé.
Ça, il a plongé tellement loin que du coup, il a loupé le ballon. Non, Maxime Docouteau pour les Sochaliens maintenant face à Descamps. C'est parti, 3 pas d'élan, c'est croisé, c'est contre-pied, c'est un petit filet. Et c'est bien joué, ça fait 3 partout devant le COP pour l'instant. 3 tirs réussis.
Dans une situation comme ça, le quatrième qui tire, c'est quand même le plus angoissé.
Je suis en train de me demander si on m'a pas filé quand même un tuyau percé sur cette histoire de Descamps qui arrêtait des pénaltys. J'en parlerai avec Benoît un peu plus tard. Bon, ça fait 3 partout.
Il était pas loin, c'est vrai qu'il était pas loin sur le deuxième tir. Hein. Il était parti du bon côté, il manquait pas grand chose. C'est Marcus Coco qui prend le ballon pour les Nantais. Tout le monde a réussi pour l'instant, hein. Côté Sochalien comme côté Nantais. Marcus Coco place le ballon face à Mehdi Jeannin et face à toute la tribune nord, hein, qui évidemment l'invective.
Poteau, annonce Roland Courbis. Alors
attention, en tout cas, prise d'élan, quelques pas. On y va en marchant d'abord pour Marcus Coco. Des tout petits pas. Ouh, oh, elle est parfaitement tirée. Il était parti du bon côté. Mehdi Jeannin là aussi. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il doit vraiment manquer que quelques centimètres à Mehdi Jeannin pour la sortir. Mais c'est remarquablement tiré pour le coup. Au ras du poteau. Il ne peut pas faire plus ras, sinon c'est poteau, effectivement. À quelques centimètres près. Là, bien joué, Marcus Coco.
Et ça
sur
fait
ce coup-là.
4-3, hein, c'est
4-3.
Ça pour Nantes face à Sochaux.
Là là.
Dans un instant, le quatrième tireur sochalien, je vous rappelle sur
il
RMC.
Pas passé loin du poteau, tu sais.
Que Clermont, club de Ligue 1, s'est qualifié face au chemin bas d'Avignon. Que c'est passé également pour Amiens face à Guingamp. Victoire 3-2.
Marvin Senaya.
Quatrième tireur.
Marvin Senaya, quatrième tireur. Latéral qui arrive du Racing Club de Strasbourg. Il jouait pas beaucoup en Alsace. Il vient se relancer. Il faut du temps de jeu à Sochaux. C'est parti. Quelques pas d'élan également. Prise d'élan un petit peu bizarre. Et il va dedans quand même. Oh, c'était bizarre ce qu'il a fait avec ses petits pas là. Finalement, il la croise. Il la met petit filet. Pour l'instant, tout est parfaitement bien tiré. Et attention, la belle bronca. Elle est pour qui d'après vous? Sans regarder l'écran. Qui est le cinquième tireur nantais?
Stéphane Ziani.
Palois.
Eh oui,
ah,
oui.
Bien joué, c'est Valentin Germain qui me l'a soufflé.
C'est pour Palois.
À quel niveau le short est remonté? Ça peut donner une indication?
Il est remonté à mi-cuisse.
Mi-cuisse.
Mehdi Jeannin, les mains sur la tête.
Surnom,
un petit peu de bluff. Palois qui prend pas mal d'élan pour le coup. C'est parti pour le défenseur nantais. Oh, Lucarne, il l'a mise en force dans son style léché habituel. Mehdi Jeannin qui a essayé un petit coup de bluff, qui a essayé de pas partir, d'attendre un petit peu. Il s'est détendu au dernier moment, mais ça venait vite. Il n'a pas réussi à vraiment aller sur ce ballon qui était en l'air.
Et là, il se retrouve dans la même situation qu'Mbappé.
Oui, parce que le Sochalien, effectivement, s'il rate, c'est Nantes qui est qualifié pour les 16e de finale de cette Coupe de France.
Eh oui, c'est décisif. Décisif pour Christophe Diédiou, le défenseur Sochalien qui a aussi pris du temps de jeu, qui n'est pas forcément toujours titulaire dans cette équipe de Sochaux en Ligue 2. Il a pris vraiment que 3-4 pas d'élan. C'est parti et c'est arrêté. Oh, la nonchalance de Diédiou sur ce coup de pied arrêté, sur ce penalty. Et il est parti du bon côté, en tout cas il l'a arrêté, Rémi Descamps. C'est lui finalement qui sera le héros de cette soirée côté nantais. Bravo malgré tout à ces jeunes Sochaliens, cette équipe bis, parce que franchement ils ont
je te raconte pas de conneries. Si on revoit les images, tu vois.
Alors nous on n'a pas malheureusement d'écran de contrôle. En tout cas, il y a un arbitre de touche. Voilà, ils ont estimé que c'était valable. Et donc c'est bien le FC Nantes qui se qualifie après un 0-0 sur le terrain face à cette équipe bis de Sochaux. On aura quand même montré une belle image. Et c'est Nantes, club de Ligue 1, qui file en 16e de finale.
Merci Sébastien Abonal. Nantes est passé tout proche de la sortie, mais Nantes sera bien en 16e de finale de la Coupe de France, 18h04. Coach, ils ont eu chaud là, les Nantais, d'Antoine Combeau.
Ah bah, j'aurais bien voulu voir les images.
Les images de quoi?
Bah, du cinquième penalty. Il est pas sur sa ligne, le gardien.
Bah oui, mais du coup, bon, ok, là c'est de la faute du gardien, non?
Ah ben, je suis mauvais perdant, je veux pas changer.
Ah oui, ok. Bon, là-dessus, c'est bon. Coach, merci. Passe une bonne soirée Coupe de France. Hein. T'as vu, c'est pas terminé sur RMC.
Avec plaisir.
On en a jusqu'à demain. Dans 25 minutes, coup d'envoi de 4 autres rencontres de ces 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera dans l'intégral foot. Coupe de France qui continue avec Benoît Boutron dans un instant. Salut Benoît.
Salut Thibaut, salut à tous.
Merci pour le tuyau, effectivement. Descamps à Tours.
Tu vois, je l'avais dit. Et j'adore vivre des séances de tir au but avec Coach Courbis. C'est toujours un régal. Mmh. Et en tout cas, c'est Nantes qui s'est qualifié à Sochaux à 18h30, pile au terme.
Une fois de plus, celui qui tire en premier,
c'est qualifié. Et c'est vrai, et ça se confirme une nouvelle fois. Cannes-Dijon, Cannes qui est en National 3, Quevilly-Rouen-Laval, on suivra également Temps face à Beauvais. On va se régaler avec Sébastien Piocel, on aura des matchs européens. Et on va revenir dans un instant avec Valentin Jamin sur tout ce qui s'est passé hier soir à Charletti entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot, Coupe de France,
Benoît Boutron.
Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est donc Intégral Foot Coupe de France. On poursuit justement les 32e de finale sur RMC. Et c'est Sébastien Piocel qui va m'accompagner jusqu'à 21h. Salut Seb.
Salut Benoît, salut à tous.
C'est donc un grand week-end évidemment, on suit tous ces matchs en direct et en intégralité. Je vous disais les affiches, Lille-Auxerre, Cannes-Dijon, Quevilly-Rouen-Laval ou encore Temps face à Beauvais. Temps qui est en National 3, Beauvais en National 2, évidemment on suivra toutes ces rencontres. On fait le point dans un instant sur les infos parisiennes et lyonnaises avec Valentin Germain qui a tout suivi du dossier. Évidemment, je vous le rappelle, match arrêté hier entre les deux équipes pour des jets de fumigène à la pause et l'intrusion des spectateurs sur la pelouse. Toutes nos infos dans une minute. Et puis on suivra également les matchs européens Leeds, Arsenal et Barcelone, Elche. C'est parti pour l'intégrale. Et Seb, tu as suivi donc toute l'après-midi ces paris sur ces matchs sur la Coupe de France, évidemment. Et qu'est-ce que tu retiens pour l'instant? On a très peu de surprises. Peut-être celle de Nancy qui, à 8, au bout du temps additionnel, est parvenue à emmener 3 au tir au but et s'est imposée justement. On aura Benoît Pedretti avec nous, a priori l'entraîneur nancy à 20h30. C'est une des seules surprises qu'on peut retenir cet après-midi. Hein.
Ouais, mais elle est pas mal parce que, bon, d'abord, on connaît la difficulté de Nancy en championnat et le fait qu'ils aient fini la rencontre à 8, aller gagner sur la pelouse de 3 une Ligue 1, c'est plutôt une belle performance, même si au-delà de la qualification, quand tu perds trois gars sur carton rouge alors que tu vas rejouer mardi en championnat et que tu es en grosse difficulté.
Exactement.
Ça, c'est un gros handicap pour le, ouais, pour le coach.
Mais ce serait une bonne question à lui poser. Est-ce qu'il est vraiment satisfait ou est-ce que justement ce scénario l'embête en vue du match de mardi importantissime? Effectivement. On suivra ça donc avec lui. 18h07, où on vous rappelle que ces 32e de finale ont été entachés par de nouveaux débordements de supporters hier au stade Charletti de Paris. Le Paris FC, club de Ligue 2, accueillait l'Olympique Lyonnais. Match, je vous le disais, arrêté à la pause alors que le score était de 1 partout. Des fumigènes ont été lancés depuis le parquage lyonnais. Des bagarres ont ensuite éclaté en tribune avant un envahissement de terrain. Tous ces événements ont été suivis sur RMC par Valentin Germain qui est avec nous en studio. Salut Valentin.
Bonjour messieurs, rebonjour à toutes et à tous.
Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi tout ce qui s'est passé hier soir, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est exactement passé à la pause de ce match entre Parisiens et Lyonnais?
Eh bien effectivement, hier 21h50, on est à la mi-temps lorsqu'on voit des fumigènes lancés depuis le parquage lyonnais vers la tribune qui est à droite, qui est à côté, où il y a des familles, où il y a des enfants, des pétards aussi on entend, puis des mouvements de foule dans la tribune donc du Paris FC à côté de ce parquage où des Lyonnais sortent du parquage et pénètrent dans la tribune armés de ceintures, armés de poings américains, parfois de nunchaku cagoulés également. Ils attaquent des supporters lambda selon plusieurs témoignages. Ce sont des personnes qui sont arrivées au stade en retard, qui sont violentes. Une chose reste à éclaircir dans cette histoire. Il pourrait y avoir, on dit bien il pourrait y avoir, des anciens ultras du PSG à l'origine ou en tout cas dans cette histoire. En tout cas, dans un premier temps, ça se calme. Les forces de l'ordre interviennent. Les Lyonnais retournent dans leur parquage, encadrés par des CRS. Et puis, nouvelle excitation, de nouveau des fumigènes lancés, des supporters lyonnais qui s'excitent, qui se dirigent vers la pelouse. D'autres supporters du PFC aussi, parce qu'ils veulent fuir les affrontements et les violences. C'est du grand n'importe quoi, tout simplement. On sort de toutes les tribunes ensuite, on pénètre sur la pelouse. Et il y en a, en fait, qui en profitent. D'abord, c'est les Lyonnais. Et ensuite, des supporters, entre guillemets, du PFC en profitent pour sortir un petit peu de toutes parts, prendre des photos, s'accrocher aux barres transversales. Et donc, la pelouse est envahie au moment, en plus, où les joueurs revenait sur ce terrain. L'arbitre renvoie immédiatement tout le monde au vestiaire. Match suspendu, puis définitivement arrêté à 22h50.
Bon, on vous rappelle que c'est le 8e incident majeur causé par des supporters depuis le début de saison. Évidemment, les 7 autres étaient en Ligue 1 lors des matchs de championnat de Ligue 1. C'est le 2e consécutif qui implique l'Olympique Lyonnais. Je vous rappelle ce match entre Marseille et Lyon, justement au Groupama Stadium, qui avait été arrêté le 21 novembre. Lyon qui avait écopé d'un point de retrait. Et évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les suites. Valentin, la commission de discipline de la fédération a indiqué aujourd'hui qu'elle se réunirait en urgence en début de semaine. Il y a eu des pressions de toutes parts. Il y a eu la pression du président Ferracci du Paris FC. Et même Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'en est mêlée.
Oui, effectivement, Roxana Maracineanu qui a dit qu'elle voulait tout simplement que la Fédération française de football et Noël Le Graët notamment réagissent très vite à ce dossier qui était grave. Il y a eu différentes déclarations après la rencontre, dont celle également de Jean-Michel Aulas, hein, qui d'ailleurs sera suspendu à partir de mardi pour son attitude autour de OL-OM. Il est apparu assez lassé et il insistait surtout, l'OL n'est pas le seul responsable dans cette histoire.
Ton avis, Seb, tu as suivi ce match forcément hier soir, tu as vu les incidents donc à la pause, tu trouves ça consternant, j'imagine. Comment tu analyses tout ça?
Bah c'est une honte. Qui plus est, hein, c'était plutôt une belle première période de football.
Ah, partout
une belle,
ouais,
une belle fête. Mmh. Il y avait une bonne réaction des Lyonnais sur le terrain. Et c'est vrai qu'à aucun moment, bon, on pouvait s'imaginer au stade Charletti qu'il y ait des incidents pareils avec des si on peut appeler ça des supporters lyonnais. C'est dans la lignée hein, de ce qu'on vit depuis le début de la saison et quelque part depuis le retour des supporters dans les stades depuis le post-Covid. Moi déjà je me demande comment on peut faire pour faire rentrer des nunchako ouais. Bon, non mais je me demande, il y a quand même des personnes qui sont là pour faire la sécurité, pour faire les fouilles. Il y a certains objets, tu te demandes quand même comment tu fais pour les avoir en tribune. Après, bon, d'après ce que j'ai lu aussi, il y avait des supporters alcoolisés. Ouais. Bon, ça n'excuse rien, mais encore une fois, c'est le football qui est sali, et c'est vraiment triste quoi pour tous les acteurs.
ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, des groupes d'ultra lyonnais sont arrivés en retard. Ils sont arrivés à la gare de Lyon. On a constaté d'ailleurs qu'ils étaient alcoolisés lors de leur arrivée à Paris. Ils ont rejoint le stade un petit peu plus tard. Ils sont rentrés après une demi-heure de jeu, je crois, Valentin.
Oui, effectivement. Et d'ailleurs, on les a vus rentrer, hein, parce qu'ils sont arrivés déjà en foule. Ils étaient plusieurs dizaines et c'est eux qui ont rapidement lancé les champs. On sentait que c'était le noyau.
Mais comment ils font, Valentin, pour faire rentrer tous ces objets-là?
Ah, bah alors ça, moi je
dis. Les ceintures, mais je dis pas, mais
la question, et c'est vrai.
Tout ça, c'est incroyable.
C'est un petit peu ce sur quoi ils se sont envoyés la balle, les présidents, parce que Jean-Michel Aulas disait oui, ce sont nos supporters, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de filtrage, de sécurité? Est-ce que la sécurité au stade du PFC était assurée? Alors on sait aussi qu'il y avait des stadiers de l'Olympique lyonnais, environ 15, une quinzaine qui étaient là pour suivre ce groupe, mais en effet, il y a un problème de filtrage parce qu'on ne peut pas entrer avec des armes, entre guillemets, dans un stade, ou alors elles sont très bien cachées, mais il y a un souci là-dessus.
Il y a un élément aggravant pour l'Olympique lyonnais, je pense. D'ailleurs, tu nous diras le communiqué qui a été publié par l'OL cet après-midi. C'est la préméditation, parce qu'on a vu que ces supporters ultra ont ensuite enfilé des cagoules, et là, c'est là que les choses se sont envenimées et qu'à la pause
ils sont arrivés en retard aussi. On se demande si c'est pas fait exprès.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est plus facile pour rentrer à ce moment-là.
Avec des jets de fumigène sur les tribunes où il y avait des familles, c'est ce qui a scandalisé le président du PFC, Pierre Faracci. Mais à partir du moment où tu enfiles une cagoule et tu te mets à commettre des actes pareils, c'est que forcément c'était prémédité et que tu avais préparé ton coup, quoi. C'est ça qui est.
Effectivement, et puis a priori, ce sont des groupuscules, entre guillemets, qui sont connus, alors pas forcément identifiés précisément comme des groupes qui se déplacent ce soir-là dans tel stade, mais ce sont des groupuscules violents qui sont identifiés, qui sont connus, et d'ailleurs que l'OL, on va en reparler, s'attelle en ce moment à identifier pour les personnes un peu plus précisément via la vidéosurveillance, mais voilà.
Après, il faut les radier la vie, ces personnes-là.
Alors, évidemment, la prochaine étape, c'est établir les responsabilités. On se renvoie la balle entre les deux camps, évidemment. Jean-Michel Aulas a déclaré hier soir que les responsabilités étaient partagées. C'était pas du tout l'avis de Pierre Ferracci, qui était fou de colère, qu'on a entendu ce matin dans les grandes gueules du sport. Précise-nous ce qui a été annoncé donc dans ce communiqué de Lyon et les prochaines échéances sur cette décision. Comment on va décider du vainqueur de ce match? Parce qu'on rappelle qu'il y a un tour de Coupe de France qui arrive très vite, dès le premier week-end du mois de janvier. Donc ça semble compliqué de pouvoir rejouer cette partie.
Alors oui, communiqué de l'OL ce midi, l'info forte entre guillemets, c'est que Lyon interdit le déplacement des groupes de supporters pour les matchs à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre et jusque la lumière soit faite sur l'identification des auteurs à l'origine de ces incidents. Donc voilà, mesure forte pour l'OL qui dit vouloir, je cite, éradiquer les phénomènes de hooliganisme et bannir tous ceux qui sont ennemis par leurs actes du football. Le club rhodanien qui affirme également qu'il assumera l'ensemble de ses responsabilités, qu'il appliquera avec force et détermination les sanctions maximum, y compris s'il faut radier à vie. Effectivement, on veut que les responsabilités soient établies, que ce soit dans le jet de bombes agricoles à l'intérieur du parcage en début de mi-temps, c'est ce que dit l'OL, les fumigènes, les violences, l'envahissement de terrain. L'OL qui a déjà porté plainte, qui analyse donc les images à sa disposition. Et donc concernant les suites à donner, la commission d'ici dont tu parlais, Benoît, en début de semaine, ce pourrait être lundi. Le dossier va être placé, si ce n'est déjà fait, en instruction. La première tendance, effectivement, c'est que ce sera compliqué de prendre des décisions d'ici les 16e de finale de Coupe de France, programmées le 2 janvier, parce que c'est long, c'est complexe. Il est possible que Lyon ait match perdu. Mais il y a aussi la question du Paris FC. Est-ce qu'en termes d'organisation, on était équilibré? Donc tout ça va se poser. Noël Le Graët, le président de la Fédé, a également réagi. Il déplore ces incidents désastreux. Ce qui est sûr, c'est que du côté du PFC, et on a eu Pierre Ferracci en effet sur RMC, l'idée, on a bien compris, il l'a pas dit clairement, mais c'est que le PFC gagne ce match sur tapis vert, en tout cas que ce match ne soit pas rejoué. Pour lui, c'est la logique, et évidemment
il était déçu pour l'anecdote d'ailleurs d'avoir encaissé ce but juste avant la pause, parce qu'il se dit si mon équipe menait à la pause, ça aurait peut-être été plus facile de prendre cette décision. Mais d'ailleurs, je précise que ce sera un débat demain dans les grandes gueules du sport. Est-ce que l'Olympique Lyonnais doit être exclu de la Coupe de France? Tu répondrais quoi à cette question, toi, Sébastien Piocel?
Moi, je dirais oui. De toute façon, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui se passe depuis des semaines, il faut des actes forts. Alors, c'est vrai que, après, je suis un peu partagé. On voit, ou en tout cas, qu'avec le peu de recul qu'on a, puisque, il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises là par rapport à ça. On voit aussi que collectivement ou au niveau des clubs, le fait d'enlever des points, ça marche pas forcément. Donc il faut vraiment sévir individuellement, ça c'est sûr. Mais en l'occurrence, là, par rapport à ce match-là, oui, je vois pas. En plus, d'abord, dans le timing, bon, c'est compliqué. Comme on l'a dit, le prochain tour arrivera rapidement.
Ouais, c'est pas
serré. Et puis, même si éventuellement il y avait quelques problèmes de sécurité, bon, on a très bien identifié que c'était les supporters lyonnais qui avaient causé ces dégâts-là. Moi, la question que j'avais, c'était, il me semble que Lyon avait aussi des points en sursis, non, en championnat.
Ah, mais ils ont eu même un retrait de points, un point retiré.
Il n'y avait pas un sursis, un retrait de points ferme et un retrait en sursis. Non, mais c'est pour savoir s'il y avait un lien entre le championnat aussi et la Coupe de France.
Ah, pas du tout. Non, parce que la Coupe de France est gérée par la fédération et le championnat par la Ligue.
Je te donne un exemple là, on va peut-être en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Tu prends un carton rouge là en
oui,
Coupe
c'est
de
vrai.
France.
Oui, c'est vrai. Tu es suspendu.
Ouais. Donc c'est pour savoir s'il pouvait y avoir un lien aussi et ça pouvait retomber sur une sanction.
Un nouveau retrait de points?
Ouais, non, je sais pas, je demande.
En tout cas, merci Valentin Jamin pour toutes ces précisions.
Plaisir,
donc le débat à suivre demain matin dans les grandes gueules du sport. 18h17 sur RMC dans un instant. La suite des 32e de finale de la Coupe de France. On va vous présenter les quatre affiches qui démarrent à 18h30. Cannes, Dijon, Lille, Auxerre, Quevilly-Rouen-Laval et également Temple de National 3 face à Beauvais National 2. Je vous rappellerai d'ailleurs tous les qualifiés, tous les résultats de la journée. Et puis on vous tiendra informé également de ce qui se passe au Qatar dans cette finale de la Coupe arabe entre la Tunisie et l'Algérie. On est pour l'instant en prolongation. C'est l'Algérie qui mène 1-0. À tout de suite sur
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Benoît Boutron
avec Sébastien Piocel jusqu'à 21h sur RMC. Évidemment, on suit tous les 32e de finale de la Coupe de France. Je vais vous rappeler les qualifiés du jour. Bastia, club de Ligue 2, qui est allé s'imposer chez le club du Haut-Lyonnais, club de National 3, 3-1. Vitré, club de National 2, qualifié chez un club de DSR Panazol au tir au but. Toulouse a battu Nîmes dans un choc de club de Ligue 2, 4-1. Versailles, National 2, est allé s'imposer sur la pelouse de Sarre-Union au tir au but. Nancy s'est qualifié à 3. On en reparlera avec Benoît Pedretti, qui sera notre invité à 20h40. Qualification au tir au but, alors que Nancy a terminé le match à 8. Nantes vient de se qualifier à Sochaux au tir au but également. Qualification de Jura Sud contre Saint-Denis, un club de la Réunion de division d'honneur. Créteil a battu Vénissieux, Créteil National, Vénissieux DH. Et puis on rappelle que Clermont est allé s'imposer, Clermont Club de Ligue 1, sur le Haut-Costière face au Chemin Bas d'Avignon. C'est un club de Nîmes qui évolue en DSR. Enfin, dernier résultat à vous donner, Amiens, club de Ligue 2, qui est allé s'imposer chez un autre club de Ligue 2, Guingamp, victoire 3-2. Seb, il y a pas mal de matchs à suivre dès 18h30, notamment un pour un club historique des années 90, c'est l'AS Cannes. Du coup, on prend la direction du stade Pierre de Coubertin pour retrouver Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Benoît, salut Sébastien, salut à toutes et à tous.
Clément. Eh oui, le club de Luis Fernandez, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, ça fait rêver tout ça Clément quand même.
Peter Luxin,
oui. Il y en avait du beau
aussi.
Monde.
Sébastien Frey, Johan Micou.
Eh ouais. Exactement.
Hugo, Bruno Bologne aussi, hein, dans une ancienne époque.
Alors, le club a ensuite
Franck Durix aussi.
Qui ?
Durix.
Eh oui, Durix.
Ah, j'adorais.
Ouais. T'as joué à Cannes, toi ?
Non. J'ai joué contre Cannes ou à Cannes ?
Ah, t'as jamais joué à Cannes ?
Non, non. Ouais. Par contre, à mon époque, au niveau des centres de formation, c'était incroyable.
Oui, ouais. Évidemment. Également, Cannes a connu des heures sombres. Hein. Cannes qui a même connu une faillite en 2014. Mais Cannes qui est désormais porté, Clément, par une personnalité locale, Annie Courtade, une femme d'affaires de 82 ans qui est à la présidence du club. Hein.
Exactement. En 2014, il y a un certain monsieur Lisnard qui arrive en tant que maire de la ville de Cannes, et ça correspond à petit peu près à cette époque où Cannes fait faillite et donc descend en 7e division, en DHR à l'époque. Et à cette époque-là aussi, Annie Courtade sort d'une très belle période, d'une épopée avec le club de volley du RC Cannes. Et donc David Lisnard adore ce club. Son père y a joué, son grand-père était également dirigeant, et il a voulu remettre un petit peu de l'ordre dans la maison cannoise et a décidé de mettre Annie Courtade dans le comité directeur, en lui proposant même d'être présidente un petit peu plus tard, puisque avant elle c'était Joanne Micou qui a été présidente entre 2016 et 2019. Il aime le club, elle c'est une machine à gagner, et donc c'est pour ça que monsieur Lisnard, le maire de Cannes, a décidé de l'enrôler. Écoutez-le, il était très confiant à l'idée qu'elle soit présidente un jour de l'AS Cannes.
J'étais sûr qu'elle deviendrait présidente. C'est une femme de rigueur et de passion qui sait aussi apporter un complément d'âme, financier aussi, quand il le faut. Et donc, elle le fait avec des résultats. C'est ce qui compte. C'est quelqu'un qui gagne, Annie Courtade.
Ouais, elle gagne, elle a un caractère incroyable. C'est une grande dame, mais elle fait 1m63. Annie Courtat, c'est la présidente la plus titrée de l'histoire des sports collectifs français. Rien que ça, 25 ans de règne à la SCAN au volet, 41 titres, dont 2 Ligues des Champions, sous l'air également Victoria Rava, la célèbre joueuse canoise de volet. Donc voilà, elle est incroyable pour l'avoir rencontrée cette semaine. Je vous souhaite de la rencontrer. Elle est protectrice, mais à la fois un sacré caractère. Pour une petite anecdote, la semaine dernière, elle était sur la pelouse de Furiani pour ce match National 3 contre le leader de la poule de Cannes, qui lui est troisième du championnat. Et il y a quelque chose qui lui a pas plu sur le terrain. Elle est allée s'en prendre directement au président en lui passant une bonne soufflante, en lui disant c'est inacceptable ce que vous êtes en train de faire là. C'est 1m63 et Jean-Noël Cabezas, l'entraîneur de Cannes, était même surpris de la voir avec ce comportement. C'est une femme qui ne lâche absolument rien.
Il est adorable, le président de Furiani.
Et bien pourtant, il y a quelque chose qui lui a pas plu et elle est allée lui faire savoir. Écoutez, bon. Annie Courtat, justement, parce que à 82 ans, elle est toujours pleine d'ambition.
Moi, les deux, en général. Ah oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, ce sont les deux. Aller le plus loin en Coupe de France, mais évidemment, elle a gagné. Vous imaginez l'affiche PSG Cannes National 3. Ça serait extravagant, mais pourquoi pas, hein. De toute façon, en Coupe de France, on s'attend à des surprises phénoménales.
Et voilà donc Annie Courtat, présidente emblématique de ce club de la SCAN aujourd'hui en National 3 Cannes, qui reçoit Dijon dans 5 minutes. Justement, merci Clément, on te retrouve dans 5 minutes pour le coup d'envoi de ce match. On ira également à Pierre Mauroy pour ce choc entre Lille et la JOCR. On suivra également au stade Robert Diochon le duel entre Quevilly-Rouen et le stade Lavallois, sans oublier la rencontre entre Tan, club de National 3, et Beauvais, club de National 2. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
Benoît Boutron
avec Sébastien Piocel jusqu'à 21h sur RMC. 18h29, on va aller sur les stades, justement, des matchs qui vont démarrer dans moins d'une minute. On est allé à Cannes pour ce Cannes-Dijon, vous présenter cette affiche avec Clément Brossard. Direction le stade Pierre Mauroy pour retrouver Lille, le champion de France, qui reçoit un bien classé de Ligue 2. C'est la JOCR qui est 3ème pour l'instant. Salut Timothée Mémon.
Salut Benoît, salut à tous, bienvenue au stade Pierre Mauroy. 10 Coupes de France sur la pelouse tout de même pour cette rencontre, 4 pour la GIA, 6 pour le LOSC en cette soirée de Coupe de France. C'est le match qui va débuter dans quelques secondes. Vous signalez dans la composition lilloise la présence de Bourak Yılmaz en pointe, et du côté de cette équipe de la JOCR, et bien ce sera Ben Fredge en pointe, avec quelques changements qui ont été réalisés. Très clairement, les Lillois jouent et veulent gagner la Coupe de France. Ce n'est pas le cas de la JOCR, qui veut se concentrer sur le championnat, tu l'as dit. Ils sont troisième et le coup d'envoi vient d'être donné.
Et on aura le temps d'en reparler. Merci Timothée. Direction le stade Robert Diochon pour ce duel entre Quevilly-Rouen et Laval. Salut Christophe Lécuyer.
Salut Benoît. Bonsoir à tous. Coup d'envoi donné à l'instant même ici au stade Robert Diochon pour cette affiche où c'est l'équipe hiérarchiquement supérieure qui reçoit la plus petite QRM, 11e de Ligue 2, qui reçoit le stade Lavallois, actuel 5e du championnat de National. Les deux équipes n'ont pas encore réalisé d'exploit, évidemment. Pour en arriver là, ça pourrait être un exploit pour le stade Lavallois, équipe effectivement qui a connu des heures de gloire en Coupe de France et en championnat. C'est un exploit qu'attendent les joueurs de la Mayenne. Ce soir, 20 secondes de jeu ici à Diochon, 0-0 entre QRM et le stade Lavallois.
On joue le jeu des deux côtés, Christophe. Il y a eu du turnover ou pas trop finalement ?
Un peu du côté de QRM, et ça s'explique logiquement par le fait que QRM recevra le stade Malherbe de Caen pour derby normand. Ce sera mardi soir en championnat.
Est-ce que c'est parti entre Cannes et Dijon, Clément Brossard ?
Exactement, c'est parti depuis 33 secondes au stade Pierre de Coubertin, avec une très belle ambiance, notamment mise par les supporters cannois qui ont allumé un petit fumigène. Là, on est à un peu plus de 2000 personnes, entre 2000 et 3000 personnes même dans ce stade de Coubertin, qui a vécu de belles heures au début des années 90, et donc qui revit un petit peu la sensation d'un match à enjeu avec des cannois très entreprenants. Peut-être une première action à venir avec cette passe là sur le côté gauche pour tenter de chercher l'attaquant Souleymane Djabour. Il y a une vraie intensité, en tout cas mise de la part de ces cannois, des hommes de Jean-Noël Cabezas, qui ont éliminé Rodez, club de Ligue 2, au tir au but lors du tour précédent. Ils sont capables à nouveau de refaire l'exploit, ces cannois. Donc 0-0 après 1 minute 12.
Et c'est parti dans le quatrième match qui vient de démarrer entre Tan, club de National 3, et Beauvais, club de National 2. 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. Et tout de suite, on parie sur RMC.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Alors tu nous proposes de parier sur quelle rencontre ?
Bah sur Lille
Auxerre. Ah oui, bien.
Ça me paraît être la rencontre la plus sexy, entre guillemets. 1-18, la victoire de Lille. Un peu moins sexy la cote pour le coup. 6-25, le match nul. 13, la victoire d'Auxerre. Écoutez, les Lillois jouent avec leur équipe titulaire face à une équipe bis auxerroise. On nous montre donc que Lille veut gagner ce trophée. En tout cas, on l'espère. Je vous propose donc de miser sur le 1, 2 ou 3-0. C'est coté à 2,35.
Seb.
J'avais parié moi sur ce match. Je crois pas, mais bon, je vais aller sur la logique hein, vu que Lille
joue le jeu.
Donc je vais dire Lille qui gagne à la mi-temps, qui gagne à la fin et qui a deux buts d'écart. Avec deux buts d'écart.
T'as pu calculer tout ça ou pas, Johan?
Bien sûr, ouais. très vite. Hein, je l'avais déjà écrit.
2-10,
la victoire du coup de Lille par deux buts d'écart avec Lille qui mène à la mi-temps également.
Merci Johan, tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et puis on va suivre quelques matchs européens qui viennent de démarrer. On va rejoindre Aurélien Tersin. Salut Aurélien.
Bonsoir.
Aurélien, on suit deux matchs. Un en Angleterre qui oppose Leeds à Arsenal et un en Espagne qui oppose le Barça à Elche. Grosse occasion pour les Gunners à l'instant.
Hein. Énorme début de match effectivement pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Capitaine toujours 0-0 après 3 minutes de jeu. Lacazette qui a buté sur le gardien français Ilan Meslier. Thomas Partey derrière qui manque deux fois l'immanquable. Encore une fois les Gunners dans la surface de réparation avec Lacazette qui ne peut pas frapper. Leeds qui vient d'encaisser un 7-0 face à Manchester City il y a quelques jours, donc 0-0. Et entre Barcelone et Elche, même score, pas de but, 0-0 après 2 minutes et 30 secondes de jeu. Ousmane Dembélé et Clément Lenglet notamment sont titulaires.
Tiens, je vous précise que la Juve mène 1-0 à Bologne. On suit également un match en Allemagne, pour l'instant 0-0 après 3 minutes seulement entre le Hertha Berlin et le Borussia Dortmund. Et puis on suit donc cette finale de la Coupe arabe au Qatar, deuxième période de la prolongation, et c'est toujours l'Algérie qui mène 1-0 face à la Tunisie. Retour au stade Pierre Mauroy, Lille à Auxerre, avec donc cette équipe quasiment type, Timothée Mémon pour le LOSC et cette doublette Yilmaz David hein, aligné par Jocelyn Gourvennec.
Absolument, on sent très clairement les intentions de Jocelyn Gourvennec dans cette rencontre, mais tu l'as dit en présentant cette rencontre, d'un côté la Auxerre est troisième de Ligue 2 nécessairement. Forcément, l'objectif pour Jean-Marc Furlan, c'est le championnat, c'est de s'accrocher en championnat. De l'autre côté, on a une équipe de Lille qui est 11e en Ligue 1. Un statut bien indigne de leur position de champion titre.
L'occasion énorme pour les Canois avec Stanisias Kiel qui s'est présenté juste devant Anthony Rajtchopi qui était au point de pénalty très bien servi. Et donc le gardien dijonnais qui s'est imposé pour la première fois. Mais clairement, ce début de match est à l'avantage des clubs, du club de National 3. Il y aura un premier corner à tirer de la gauche vers la droite pour ces Canois qui mettent la pression sur la cage dijonnaise vraiment pour le tirer. C'est Saint-Cédric Gonçalves, le capitaine. Il y a du monde dans la surface de réparation, c'est frappé au second poteau sur une tête dijonnaise dans un premier temps, repoussé ensuite, ça va revenir. Ils sont chauds hein. Franchement, les joueurs de Jean-Noël Cabezas dans ce début de match, ils mettent une grosse pression sur l'arrière-garde bourguignonne. Toujours 0-0 entre Cannes et Dijon après 5 minutes de jeu.
Clément, est-ce qu'on peut dire un mot sur la qualité de la pelouse qui a l'air très moyenne hein?
Ouais, c'est vrai. On voit pas mal de plaques. On va suivre ce centre de l'extérieur du pied avec Kielt qui va. Ouais, il y a juste un petit rebond avant la frappe de Stanislas Kielt. Tu as raison, mais c'est vrai que cette.
Parce que là, il a vraiment une occasion en or. Il est seul face au but, seul face au gardien.
Ouais. Et nouvelle tentative. Cette fois, c'était de la part du numéro 7, Christopher Desmartins. Mais les premières occasions sont à mettre à l'actif de ces Canois. Et pour revenir sur la pelouse, il y a des mottes un petit peu partout, des grosses plaques également, qui nous montrent clairement, visuellement, que cette pelouse est en mauvais état. Il y a eu un match il n'y a pas si longtemps non plus, hein, au stade Pierre de Coubertin, qui accueille les rencontres de National 3 habituellement. Et cette pelouse va peut-être jouer en faveur de cette équipe de Cannes qui en a bien plus l'habitude que ces Bourguignons. En difficulté, on le rappelle, en Ligue 2. 16e place, mais Patrice Garonne n'a pas décidé de faire tant tourner que ça, puisqu'on retrouve Frédéric Samaritano, Michael Le Bihan, Romain Philippotto dans cette équipe. Ce sont les joueurs confirmés dans le monde professionnel. Mais malgré ça, eh bien, ce sont ces Canois qui mettent la pression sur l'arrière-garde bourguignonne. 6 minutes de jeu, 0-0 entre Cannes et Dijon.
18h36 sur RMC. Je t'ai même pas posé la question, Sébastien Pucelle. Est-ce que tu as des très bons souvenirs en Coupe de France?
Oui, parce que j'en ai gagné deux avec Nantes. Ouais. Donc c'est mes deux premiers titres sur mes deux premières saisons.
Ouais,
19 et 20 ans. Donc forcément, c'est des parcours, c'est une compétition à part.
Tu avais joué la compète, ouais, tu avais disputé des matchs.
Ouais, la finale, ouais. Mais c'est vraiment une compétition à part où t'embarques tes supporters. Le championnat, forcément, c'est autre chose, c'est un marathon, mais la Coupe de France, ça procure énormément d'émotion. Et puis nous, on avait la chance de la jouer avec beaucoup de joueurs formés au centre.
Bien sûr.
Donc c'était comme une bande de potes en fait qui avait manqué la Gambardella 2 ans avant et qui avait gagné la Coupe de France.
Et tu bats qui en finale?
Sedan la première année et Calais la deuxième.
Et ben voilà. Ah oui, Calais, c'est vrai, t'étais de cette finale, d'accord, entre Nantes et Calais avec Michael Landreau qui invite le capitaine calaisien à soulever le trophée avec lui, je me rappelle de ce match, effectivement. 18h37, retour sur les pelouses, retour donc à Quevilly, ou plutôt à Rouen, à Robert Diochon pour ce Quevilly-Rouen-Laval, Christophe Lécuyer.
Ouais, 8 minutes de jeu ici, toujours 0-0 entre QRM et Laval. C'est la particularité de ce stade Robert Diochon qui a quand même 3 utilisateurs. Hein.
Ouais,
les matchs s'enchaînent ici entre le club de rugby, le FC Rouen.
Et alors la pelouse
est hybride la pelouse.
Ah, ouais, la pelouse est hybride, ouais, et elle a été refaite effectivement il y a quelques mois de ça. C'était la condition sine qua non pour qu'elle puisse enchaîner en toi compte. Hein, des fois 4 matchs dans la même semaine. Hein, ça joue ce soir. Ça rejouera mardi ici en championnat avec QRM. Les conditions météo sont plutôt favorables ce soir, donc les conditions de jeu le sont tout autant. Pour l'instant, début de match équilibré. Pas d'occasion ni d'un côté ni de l'autre. On est encore dans ce qu'on appelle ronde d'observation. Attention, qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Non, il y a une faute et avantage donné à la défense qui va pouvoir se dégager ici pour l'instant. Début de match assez timide de part et d'autre. 8 minutes de jeu à Diochon, 0-0, toujours dans ce duel entre QRM et le Stade Laval.
Alors ok, pelouse hybride, mais ce qui est perturbant, c'est qu'on a les lignes de rugby. Donc ça, c'est pas évident pour les joueurs de foot, pour les repères.
Et pourtant, les services de la ligne font le maximum, c'est-à-dire que c'est qu'après le match de rugby, les lignes du rugby sont repeintes en vert pour évidemment qu'on évite d'avoir une confusion, mais
vert ou pas, bon budget peinture,
on arrive quand même à distinguer. Bon. Complètement, il y a deux sortes de peinture. C'est un peu particulier, hein, ce stade Robert Diochon avec 3 utilisateurs. Je vous avoue que la conciliation entre les matchs de rugby et les matchs de foot, c'est pas toujours évident.
Allez, retour à Lille, ce match entre le LOSC et la JOCR, Timothée.
Ça me fait plaisir que tu reviennes me voir, toujours 0-0 après minute de jeu, vu que je te racontais quelque chose, que j'ai été coupé par Clément, mais t'es pas du tout revenu. Donc,
je vous disais, on a le temps.
Je suis vexé. Non, je te disais que Lille jouait à plein cette compétition, alors que là, il y a Burak Yılmaz qui est parti, mais qui est en position de hors-jeu. Lille joue cette compétition parce qu'évidemment, en championnat, ils sont bien loin de leurs objectifs, alors que, évidemment, Jean-Marc Furlan l'a dit, la priorité est au championnat pour la JA. Tu demandais des nouvelles de la pelouse de Cannes. On peut parler de celle de Lille qui est absolument catastrophique. Bonne nouvelle, vous ne la reverrez plus. C'est la dernière fois que l'on verra cette pelouse. Elle sera changée après ce match-là, pendant la mini-trêve. Et ce sera pas du luxe, très clairement, pour le stade Pierre-Mauroy qui aujourd'hui accueille 8000 spectateurs. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait clairsemé. Eh ben, c'est moins.
Voilà, 8000, ouais, ça doit vraiment sonner creux. Hein.
Ouais, ça sonne un petit peu creux en ce dernier match ici à Pierre-Mauroy avant la trêve. Les joueurs de la JOCR qui essayent de procéder en contre. Pour le moment, les Lillois sont globalement dominateurs. Ils se sont procurés plusieurs situations intéressantes avec des bons appels de Burak Yılmaz, avec également tout à l'heure un jeu collectif qui s'est conclu par une frappe de Renato Sanchez, lequel a manqué le cadre. Pour le moment, ils sont un peu meilleurs, les Lillois, sur la pelouse, alors que là, ce sont les joueurs de la GIA qui ont le ballon. Finalement, on va revenir en retrait. 10 minutes de jeu, 0-0.
Et donc, on va retourner à l'étranger, en Espagne et en Angleterre. Leeds, Arsenal et Barça, Elche. Aurélien Tiersin.
Pas de but, ni en Angleterre, ni en Espagne. 10 minutes de jeu entre Leeds et Arsenal. Les Gunners, qui sont quatrième de Première Ligue, qui vont pas si mal que ça cette saison. Là, c'est Rafinha, l'ancien Rennais, qui a déjà marqué 7 buts en Première Ligue, qui essaie de déborder Gabriel Martinelli. Il n'obtiendra qu'une seule touche. Et du côté du Barça, au Camp Nou, là aussi, un public assez clairsemé. Ça va pas fort, évidemment, au Barça, simplement 8e de Liga cette saison. Il manque Depay, il manque Serginho d'Est, il manque pas mal de monde du côté de Xavi, l'entraîneur du Barça, et pour l'instant c'est assez fermé, 0-0, même si un but a été refusé à Ferran Blanc, un jeune catalan, mais il était largement hors jeu. Donc 0-0 sur les deux pelouses.
18h40, on suit donc les 32e de finale de la Coupe de France, 0-0 toujours entre Tant, club de National 3, club des Vosges, et Beauvais, club de National 2. On retourne donc à Cannes, le stade Pierre de Coubertin, Cannes face à Dijon, Clément Brossard.
Après 11 minutes de jeu, toujours 0-0, domination cannoise, étonnamment, le club de National 3 qui fait la différence, hein, face aux pensionnaires de Ligue 2, mais là il y a un coup franc à venir pour le DFCO, excentré sur le côté gauche, qui va être frappé par la petite patte droite de Frédéric Samaritano, capitaine aujourd'hui. Il y a du monde également, Jonathan Panzo, Bruno Ekwelemanga, de bons joueurs de tête dans les rangs bourguignons. On a une défense très resserrée aussi, quand il faut se replier pour la SCAN, c'est parti pour Frédéric Samaritano de la gauche vers la droite, au point de pénalty sur une tête, justement celle de du Canois Kielt, qui fait un gros début de match. Il a 19 ans, ce sera l'homme à suivre vraiment dans les rangs de l'ASC, 19 ans, et on l'appelle la pépite, le bison aussi à Cannes. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Le capitaine Cédric Gonçalves disait de lui qu'il avait rarement vu un joueur jeune aussi talentueux, qu'il pouvait voir plus haut dans les prochaines années, mais qu'il fallait d'abord passer cet échelon.
C'est lui qui a loupé l'occasion.
Ouais, tout à fait. Mais il est très intéressant, en tout cas dans ses déplacements sur les côtés, il est partout. Il fait la différence en se retournant sur des contrôles orientés. Il prend de vitesse les latéraux dijonnais depuis le début de la rencontre. Non, c'est un vrai bon joueur qu'on va suivre avec attention. Stanislas Kielt. Toujours pas de but dans cette rencontre pour le moment. 12 minutes de jeu, 0-0 entre Cannes et Dijon.
C'est quoi le profil des joueurs de Cannes, Clément? Ce sont des joueurs professionnels qui font que du foot, qui ont des contrats fédéraux, ou il y en a qui travaillent à côté?
Aucun joueur ne travaille à côté. Ils sont quasiment tous semi-pro avec contrats fédéraux, mais il y a un seul étudiant, le gardien remplaçant. Sinon, ils s'entraînent tous les jours, ou presque, les joueurs de l'ASC.
Ouais, pour un club de National 3, c'est assez rare d'avoir l'effectif complet qui ne travaille pas à côté, Seb.
Ah, complètement. Et tout à l'heure, on parlait des installations. Bon, ils sont déjà bien au-dessus de la moyenne.
Et vivre du foot à Cannes, c'est quand même plutôt sympa.
Ouais, après, encore une fois, il faut pas se tromper. Bien sûr que tout joueur qui joue à ce niveau-là aimerait ne faire que ça. Après, il y a un confort, il ne faut pas tomber dans ce confort. Mmh. Et le problème de ce club-là, même s'il y a eu le Covid, hein, comme ils l'ont dit, c'est qu'il végète quand même depuis un moment dans ces divisions-là. Et pour remonter, des fois, il te faut mettre un peu le bleu de chauffe. Mmh. Ces championnats-là, on les connaît, National 3, notamment du groupe Méditerranée, avec les clubs corses. C'est un championnat très dur. Après, je dis pas qu'ils vont pas y arriver. D'ailleurs, je leur souhaite. Mais en tout cas, eux, ils doivent se régaler de pouvoir s'entraîner quasiment 5 fois par semaine s'ils travaillent pas à côté.
T'as raison.
Objectif.
Vas-y. C'est un régal pour le coach aussi.
Il peut mettre des séances quand il veut.
Aussi. Objectif monté direct donc pour l'AS Cannes, hein, cette saison. Il y a la vraie volonté de monter en National 2. Et puis depuis qu'Annie Courtade est arrivée à la présidence, on en a parlé tout à l'heure, c'est une femme ambitieuse, donc elle ne veut pas forcément perdre de temps aussi. L'objectif à long terme, c'est d'arriver en Ligue 2 entre 5 à 7 ans. Et puis Seb, tout à l'heure tu parlais du centre de formation qui était une référence. Il l'est toujours, hein. Les équipes jeunes à l'AS Cannes, ça cartonne quand même, ça joue au niveau national et ça tient la dragée haute à de nombreuses équipes, à de nombreux centres de formation.
Ça revient. Il y a eu un travail quand même, parce que je connais un peu le club, et aussi de Bernard Lambourg, des anciennes équipes. Il y a quelques personnes qui d'ailleurs ne sont plus au club aussi, qui ont fait du bon boulot. Après, comme on sait, c'est tant que le club ne redeviendra pas professionnel, il y a de la concurrence, notamment dans les clubs aux alentours, hein, ça travaille bien aussi pas très très loin, dans d'autres clubs même de National 2 qui sont pas loin. Et voilà, mais après c'est sûr que quand on s'appelle Cannes, on se doit et de viser haut, et ils ont la présidente ambitieuse qu'il faut.
Et avec l'entraîneur aussi qui connaît bien les exploits en Coupe de France, parce que c'était l'entraîneur, figurez-vous, en 2019 d'Andrézieux, qui avait terrassé l'Olympique de Marseille en Coupe D'accord. de France. Donc ça a certainement joué dans le discours, à l'inverse de Patrice Garande, qui l'an dernier a été éliminé par un club amateur, Rémi Livalière, en quart de finale avec Toulouse.
18h45 sur RMC, le temps, le score sur toutes nos pelouses de Coupe de France. On l'a entendu, donc 0-0 donc entre Cannes et Dijon. Lille face à Auxerre, Timothée Mémon.
0-0 après 15 minutes de jeu au Stade Pierre-Mauroy.
Ah, peut-être un bon coup franc là pour Renato Sanchez.
Il y a un très bon coup franc pour Renato Sanchez. Je ne voulais pas gâcher ton tour des stades avec ce coup franc sur le côté gauche. Quand on regarde la cage du portier auxerrois, Renato Sanchez qui est à l'entrée de la surface de réparation, s'est mis au second poteau. La tête, la parade. Oh, la parade incroyable de la part de Théo de Persin, le gardien remplaçant habituel de cette formation de la JOC, à bout portant sur cette tête de Thiago Diallo. Il est sorti magnifiquement, le jeune gardien, pour écarter le danger. On en reste donc à 0-0.
Le temps, le score donc entre Quevilly-Rouen et Laval.
Et l'ouverture du score, l'ouverture du score ici pour le stade lavallois après 15 minutes de jeu ici au stade Robert Diochon. C'est Laval qui vient ouvrir le score ici sur la première occasion des Lavallois dans cette partie. Le très bon travail au départ, il y a Jordan Edeoti qui récupère le ballon et qui réussit à jouer avec Durban, avec Brun, ça a parfaitement combiné. Et qui vient marquer ce but, je crois que c'est Maggiotti
qui était, oui, c'est ça, c'est lui, c'est Maggiotti qui était à la conclusion, lui qui était monté justement pour apporter offensivement, et il est à la conclusion d'une très belle action d'école, en tout cas menée par le Stade Lavallois. J'allais vous dire justement que pour l'instant, entre le 11e de Ligue 2 et le 5e de National, la différence n'était pas visible. Et bien, bien au contraire, même maintenant, puisque c'est le Stade Lavallois qui mène ici à Diochon l'ouverture du score de Laval après un quart d'heure de jeu ici. Le but de Maggiotti qui permet à Laval de mener 1-0 face à QRM.
Et toujours en Coupe de France 0-0 entre Tans et Beauvais. Il y a eu deux buts à l'étranger, un en Angleterre, un en Espagne, Aurélien Tiersin.
Pour Arsenal en première ligue sur la pelouse de Leeds United, 1-0 pour les Gunners de Mikel Arteta. Alexandre Lacazette qui veut décaler Martin Odegaard, le Norvégien, perd le ballon. Adam Forchaud, milieu récupérateur de Leeds, est un petit peu lent pour relancer. Lacazette lui pique le ballon et Gabriel Martinelli, le jeune Brésilien d'Arsenal, qui vient enrouler et tromper Ilan Meslier. 1-0 donc pour Arsenal à Leeds après 16 minutes de jeu. Et à Barcelone, dans le même temps, c'est Ferran Jutla Blanc qui marque au quart d'heure de jeu. Ça fait du bien au Barça qui se comporte moyennement, très moyennement en Liga, simplement 8e cette saison. Une tête suite à un corner de la gauche vers la droite. 1-0 pour le Barça face à Elche après 16 minutes également.
18h47, je vous signale que l'Algérie mène désormais 2-0 en prolongation de la finale de la Coupe Arabe face à la Tunisie. Donc l'Algérie se dirige tout droit vers la victoire. Il reste quelques secondes à jouer, les Algériens donc mènent de 2 buts face aux Tunisiens. 18h47, on se quitte 2 minutes et on revient pour la suite de tous ces matchs de Coupe de France. Et puis on prendra les nouvelles dans un instant également du handball, les filles du handball qui sont qualifiées pour la finale du mondial face à la Norvège demain. Match à suivre à 17h30. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France.
18h51 sur RMC. Évidemment, on suit tous les 32e de finale de la Coupe de France avec Sébastien Piocel jusqu'à 21h. Le tour des stades, justement, a commencé par Lille Auxerre. Le temps, le score, Timothée Mémon.
22 minutes de jeu, 0-0 entre Lille et la GIA.
Cannes face à Dijon, Clément Brossard.
22 minutes, 0-0 entre Cannes et Dijon, domination cannoise.
Quevilly-Rouen contre Laval, Christophe Lécuyer.
La 22e minute de jeu à Diochon, c'est le Stade Lavallois qui mène un but à 0. Le but signé il y a quelques minutes de cela, Julien Maggiotti.
Et puis le temps de la pause, il y a eu 2 buts entre Tans, club de National 3, et Beauvais, club de National 2. Un de chaque côté, donc un partout entre les deux équipes. Après 18 minutes, les scores à l'étranger, en Angleterre et en Espagne, Aurélien Tiersin.
Et le Barça qui a peut-être trouvé son nouveau...
avec Bouak Yılmaz qui en fait un peu trop dans la surface de réparation, qui perd le ballon, mais le contre est favorable à Jonathan Bamba qui traînait par là et qui finit en battant Théo de Persin. Ça fait 1-0 pour le LOSC après 24 minutes de jeu dans cette rencontre.
C'est mérité, Timothée ?
C'est mérité. On regardait à 25 premières minutes de ce match, très clairement ce sont eux qui se sont procuré les meilleures occasions. C'est pas Jonathan Bamba, je vous dis une bêtise,
c'est
Angel Gomez qui a le numéro habituel de Jonathan Bamba, mais évidemment vous le savez, c'est la Coupe de France, c'est redistribué, c'est donc Angel Gomez le buteur.
Il le petit Timothée.
Et oui, habitué à la Ligue 1, trop habitué à la Ligue 1. Angel Gomez donc, le joueur anglais qui était par là et qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait donc 1-0 pour le LOSC et c'est mérité.
Ouais, elle est magnifique, la passe de Renato Sanchez, ouais. Hein, au départ de l'action aussi, pour casser la ligne là.
La passe est sublime pour trouver Bouak Yılmaz. Après, il tergiverse un petit peu trop dans cette surface de réparation. Et c'est Angel Gomez qui est là pour prendre ce ballon.
Miracle que Gomez récupère ce ballon dans la surface de réparation.
Mais t'as vu, il va vite quand même après. Entre la prise de balle et la frappe.
On rappelle sa trajectoire, hein, lui formé à Manchester United, un des plus grands espoirs des Red Devils, avant qu'il enchaîne les prêts et qu'il atterrisse effectivement à Lille. Il était l'année dernière au Portugal, hein, je crois d'ailleurs, Timothée.
Absolument.
Angel Gomez. Donc ça fait 1-0 pour Lille contre Auxerre. On termine avec les scores étrangers. Vas-y Aurélien.
Ouais, et la nouvelle pépite barcelonaise, le meilleur jeune joueur du monde, Gavi. C'est peut-être le nouveau Messi du Camp Nou. Là, il a pris le ballon à 30 mètres des cages d'Elche. Il se retourne, petit contrôle orienté, il mystifie un joueur d'Elche devant la surface de réparation. Frappe enchaînée avec un peu un style à la Messi. Poteau rentrant, 2-0 pour le Barça. Vraiment magnifique but de Gavi après 23 minutes de jeu, donc 2-0 pour le Barça. Et Leeds est toujours mené sur sa pelouse par Arsenal, un but à 0, le but de Gabriel Martinelli à la 16e. Mais vraiment défense passoire de l'équipe de Marcelo Bielsa qui, après en avoir pris 7 contre Manchester City en milieu de semaine, galère déjà face à Arsenal. 24 minutes de jeu, Rafinha quand même, l'ancien Rennais dans la surface, la frappe trop croisée à côté des cages de Ramsdale. Donc 1-0 pour Arsenal à Leeds.
Ah, il doit l'enrouler là, il doit aller prendre le deuxième poteau, il veut fermer son pied au dernier moment.
Ouais.
Dommage, hein, Rafinha qui est peut-être le meilleur joueur, hein, de
Leeds. Ouais, c'est le but,
ouais.
Ouais. Mais en tout cas, Leeds qui vit une saison galère et qui en a pris 7 au dernier match, effectivement, contre Manchester City. Je vous signale donc que c'est l'Algérie qui a remporté la Coupe arabe au Qatar dans un stade où se disputeront différents matchs de la prochaine Coupe du Monde à partir de 21 novembre, à suivre sur RMC, évidemment. Victoire 2-0 contre la Tunisie. Après prolongation, les buts de Sayoud et de Brahimi. Donc l'Algérie remporte le titre à un mois de la Coupe d'Afrique où l'Algérie défendra son titre. 18h54. Je vous rappelle qu'il y a tous les qualifiés du jour en Coupe de France pour les 16e de finale. On a trois clubs de Ligue 1. Strasbourg qualifié jeudi, Nantes et Clermont qui se sont qualifiés aujourd'hui. On a 4 clubs de Ligue 2, Toulouse, Bastia, Nancy et Amiens. Un club de National, c'est Créteil. 3 clubs de National 2, Versailles, Vitré et Jura Sud. On rappelle que 3 clubs de Ligue 1 s'est fait sortir par Nancy, club de Ligue 2. L'entraîneur nancéen, Benoît Pedretti, sera avec nous dans 1h30. On retourne du coup sur les pelouses, à commencer par Cannes, Dijon, Clément Brossard.
Ouais, la 25e, toujours 0-0 entre le pensionnaire de National 3, Cannes, et le club de Ligue 2, Dijon. C'est un match en ballant, avec beaucoup, beaucoup de rythme et pas mal d'action, notamment dans les rangs cannois, avec Kilt, donc, qui a loupé la première occasion dès la 4e minute, qui a eu la chance à nouveau d'inscrire ce premier but. Mais Anthony Rissopi, le gardien bourguignon, a repoussé ce ballon. Et puis derrière, on sent un petit peu de frustration aussi dans le camp dijonnais, puisque cette frappe longue distance là, de Mathieu Théo Alainvie est parti loin au-dessus de la cage du gardien cannois Florian Verplanck. Donc voilà, il y a pas mal de frustration, quelques gestes non pas d'humeur mais de dépit déjà chez les hommes de Patrice Garande face à une équipe cannoise ambitieuse qui le montre sur le terrain. Ça dépose tout le monde là sur le côté droit avec Paul Grandemanche qui a fait la différence tout à l'heure sur Erwan Belhadji sur le côté droit avant de centrer fort et que ce soit repoussé en précipitation par le capitaine habituel, mais aujourd'hui c'est Frédéric Samaritano mais Bruno Ekwelemanga était là pour repousser le danger. Voilà, on a pour faire un petit peu le panorama de cette rencontre, une équipe cannoise très dangereuse, très offensive, et une équipe dijonnaise dans le doute en championnat et dans le doute aussi aujourd'hui en Coupe de France.
Et encore une grosse occasion pour Lille contre Auxerre, Timothée.
Énorme occasion avec un ballon venu sur la gauche, Jonathan Ikoné qui a frappé la parade de la part de Théo de Persin. Il y avait Bourak Yilmaz qui traînait par là, mais ça n'a pas été concluant. 26e minute de jeu, toujours 1-0. Les Lillois dominent de la tête et des épaules cette rencontre. Il y a une classe d'écart très clairement entre le champion de Ligue 1 et le troisième actuel de Ligue 2. Et puis on l'a dit, il y a cette équipe d'Auxerre qui a également pas mal fait tourner par rapport à son équipe habituelle pour se concentrer sur le championnat, bien évidemment avec des Lillois qui continuent d'avoir la possession. Et je sais pas Seb si tu regardes cette rencontre d'un œil particulièrement attentif, mais Renato Sanchez, quand il est comme ça dans un 4-4-2 à plat, vraiment récupérateur en fait, vraiment dans une position de numéro 8, c'est peut-être clairement là qu'on le préfère. On l'a vu parfois être excentré sur les côtés, notamment sous Christophe Galtier. On l'a vu parfois dans un rôle un petit peu plus offensif, un petit peu plus haut. On essaye de lui donner un rôle de numéro 10, mais vraiment dans ce rôle de pur 8, c'est vraiment là qu'il excelle.
Pour moi, c'est vraiment son poste là où il excelle, parce qu'il part de loin. Bon, il a une qualité de passe comme on l'a vu là sur l'ouverture du score, mais surtout il aime avoir le jeu de face. Il est capable par des dribbles, par des courses, par des passes, de faire les différences. Et puis quand il joue assez simple, finalement, quand il joue assez juste, il est phénoménal. C'est un peu comme Paqueta. C'est pas le même type de joueur, mais quand Paqueta joue un peu plus bas dans un milieu de terrain, c'est pareil, c'est là où ils excellent. Et puis quand ils ont un vrai 6, là c'est Onana, bon ouais. Des fois ça peut être André. On a un Renato Sanchez de feu, quoi.
Ouais. Non, c'est très intéressant. Puis on a l'impression qu'il y a aussi un tout petit peu plus de temps en étant un tout petit peu plus bas, un tout petit peu plus de temps pour pour ajuster ses passes. Et on sait qu'il a une sacrée vista et que quand il a justement le temps de bien les travailler, ses passes, eh bien c'est vraiment impeccable. En tout cas, okay. Il est probablement l'un des meilleurs Lillois sur la pelouse.
Donc ça fait 1-0 toujours pour Lille face à Auxerre. Deuxième but pour Arsenal contre Leeds, Aurélien Tiersain.
Alignement catastrophique de la défense de Leeds, passe en profondeur, trop facile pour les Gunners. C'est derrière Gabriel Martinelli, lancé par Granit Xhaka. Il est tout seul, il arrive à résister au retour de son défenseur, il pique le ballon au-dessus d'Ilan Meunier. 2-0 pour les Gunners qui se baladent cet après-midi dans le froid des Land Road. On voit la fumée sortir de la bouche des joueurs dans le centre de l'Angleterre, et après moins d'une demi-heure de jeu déjà, 2 buts encaissés par Leeds qui en ce moment collectionne les cartons contre lui. Ouais. Et 2-0 toujours pour le Barça contre Elche après 28 minutes également.
On est inquiet pour le Leeds de Marcelo Bielsa. Le tour des scores rapidement en Coupe de France. Cannes, Dijon, Clément Brossard.
La 29e, 0-0 toujours entre Cannes et Dijon, et corner à venir pour le club de Ligue 2.
Quevilly-Rouen contre Laval, Christophe Écuyer.
On atteint la demi-heure de jeu. C'est toujours le pensionnaire de National qui mène 1-0. Le but de Julien Maggiotti tout à l'heure à la 16e. Le Stade Lavallois tout proche de marquer un deuxième but tout à l'heure. On sent qu'il y a beaucoup de qualité hein, devant entre Brun, Durban et Maggiotti. Laval qui mène donc 1-0 ici après tout juste 30 minutes.
Lille contre Auxerre, Timothée Mémon.
1-0 après une demi-heure de jeu grâce au deuxième but d'Angel Gomez sous les couleurs lilloises.
Et puis temps est à égalité pour l'instant contre Beauvais, 1-1 après 26 minutes. On revient dans un instant pour la suite et la fin de ces premières périodes en Coupe de France. On suivra également ce qui se passe à l'étranger. Lille notamment qui prépare des changements déjà pour essayer de résister à Arsenal. Il y a déjà 2-0 pour les Gunners. À tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France.